création on air.
On air. On air.
Creation on air.
Bonsoir. Une larme du diable est une pièce de Théophile Gautier où l'on apprend qu'aucun œil mortel ne pourrait en pleurer une semblable sans devenir aveugle. En 1951, adaptée en fiction radiophonique, elle était précédée d'une demande inhabituelle. Demander à l'auditeur de s'équiper de deux postes de radio. Ce soir, l'histoire se répète. Il va s'agir pour vous de jouer aussi avec deux postes de radio, ou les enceintes de votre chaîne stéréo, ou encore deux portables. Plusieurs jeux seront proposés, dont un inspiré du dessinateur Rube Goldberg. Installation sonore à domicile, radio Acousmomium, création on air.
Mesdames, mesdemoiselles, vieux et jeunes messieurs, dans quelques instants va débuter sur les antennes de France Culture la première diffusion de Radio Acousmomium. L'expérience proprement dite d'installation sonore à domicile va débuter dans quelques instants. Préalablement, certains réglages d'ailleurs simples sont à réaliser chez l'auditeur en possession de deux enceintes ou de deux récepteurs. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques conseils indispensables pour écouter dans les meilleures conditions possibles ces pièces sonores pour enceintes mobiles. Vous aurez successivement à observer, premièrement, une mobilité suffisante pour chacune de vos enceintes. Deuxièmement, le repérage exact de votre enceinte de gauche et de votre enceinte de droite. Troisièmement, le cas échéant, le réglage à la même intensité sonore de chacun des deux récepteurs et, si possible, le réglage à la même tonalité des deux appareils. Précisons tout de suite que cela est très simple, comme vous allez le voir, et nous allons, si vous le voulez bien, reprendre séparément mais plus en détail chacun de ces points. Premièrement, comment s'assurer une mobilité suffisante de ces deux enceintes? Disposez vos deux enceintes au milieu de votre pièce à une distance d'au moins 1,50 m de votre récepteur. Assurez-vous que les fils ne sont pas mêlés et sont bien fixés, de sorte que le déplacement des enceintes ne produise pas de perturbations sonores. Si toutefois vous ne disposez pas de deux enceintes, vous pouvez installer dans votre pièce deux récepteurs mobiles et couper ou étouffer à l'aide de linge le haut-parleur de gauche du premier récepteur et le haut-parleur de droite du second récepteur. En outre, il est préférable de disposer d'une pièce suffisamment grande pour réaliser les différents positionnements qui vous seront proposés. Bien entendu, vous allez devoir vous-même vous asseoir à différents endroits de cette pièce et à cet égard, il serait judicieux de garder à portée de main une chaise et un coussin. Une dernière précision, si malgré tout, lors du déplacement de l'une de vos enceintes, des bruits désagréables venaient à survenir, nous vous conseillons de couper votre installation sonore et de ne l'allumer qu'une fois vos enceintes bien disposées. Je répète, disposez vos deux enceintes au milieu de votre pièce à une distance d'au moins 1,50 m de votre récepteur. Assurez-vous que les fils ne sont pas mêlés et sont bien fixés. Gardez à portée de main une chaise et un coussin. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation.
Cher monsieur Tintin, soyez ce soir à 10h dans la rue Taipinlou. Il y aura une lanterne allumée à l'entrée de la maison. Mettez les vêtements chinois qui sont dans le paquet ci-joint. Vous passerez plus facilement inaperçu. Bizarre.
Rue Taipinlou. Nous y sommes. Ah, une lanterne jaune. C'est ici. Pas de réponse. Oh, mais la porte est ouverte. Tant pis, j'entre. Hola, y a-t-il quelqu'un? Ah, j'ai trouvé le commutateur. Milou, Regarde!
Un chinois!
Assis sur une chaise au milieu de la pièce et absolument immobile. Étrange. Monsieur. Pardon, monsieur. Est-ce vous qui m'avez donné rendez-vous ici? Monsieur. Répondez-moi!
On dirait qu'il est hypnotisé!
Monsieur, pour la dernière fois, est-ce vous? Rien à faire, il n'entend pas.
Inutile de commenter, vous venez d'entendre la voix ingénue mais ingénieuse du célèbre reporter Tintin. Vous avez pu toutefois remarquer que ce personnage était contraint de nous faire une description précise de l'espace qui l'entoure. C'est à dessein que nous vous avons fait entendre ce passage pour que vous puissiez vous rendre compte combien la disposition dans l'espace de vos enceintes va pouvoir faciliter la mise en scène des pièces sonores qui vont suivre. Car en effet, mais nous sommes sûrs que vous l'aviez déjà saisi, nous allons vous demander de déplacer vos enceintes avant d'écouter chacune des séquences qui composent ce programme. Pour bien réaliser ces déplacements, il est cependant nécessaire que vous distinguiez précisément votre enceinte de gauche et votre enceinte de droite. Car c'est ainsi que nous les désignerons pour faciliter nos instructions, alors même que vos enceintes ne seront plus disposées sagement l'une à gauche et l'autre à droite. Afin de vous permettre de marquer d'un signe distinctif chacune de vos enceintes, je vais continuer à parler d'abord sur le canal de gauche, c'est-à-dire que ma voix doit actuellement vous parvenir depuis l'enceinte que nous nommerons votre enceinte de gauche. Je vais maintenant me déplacer vers le canal de droite, c'est-à-dire qu'actuellement je vous parle depuis l'enceinte que nous nommerons votre enceinte de droite. Et enfin, je me retrouve en ce moment au centre pour que nos auditeurs munis de deux récepteurs puissent s'assurer que les intensités sonores de ces deux appareils soient équivalentes. C'est-à-dire que si vous vous trouvez à équidistance de ces deux récepteurs, ma voix ne semble pas vous parvenir plus précisément de l'un plutôt que de l'autre. Si ce n'est pas le cas, diminuez légèrement la puissance du récepteur depuis lequel ma voix vous paraît vous parvenir plus précisément, ou augmentez légèrement la puissance de l'autre récepteur. Vous avez donc bien identifié votre enceinte de gauche, et par ici, votre enceinte de droite. Bien. Nous vous proposons maintenant d'entendre le générique d'introduction de votre émission Radio Acousmomium.
Radio Acousmomium. Léo Duquesne. Christine Robert. Et Philippe Bredin.
Proposition 1. Score. Pièce sonore pour deux enceintes, dos à dos.
Pour une écoute optimale, il est demandé à l'auditeur de disposer ses deux enceintes dos à dos autant que possible, afin que chacune diffuse ses ondes sonores dans deux directions diamétralement opposées. Il est ensuite suggéré à l'auditeur de choisir son camp, c'est-à-dire de se positionner en face d'une de ces deux enceintes. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation.
Votre enceinte de gauche. Votre enceinte de droite.
Deux enceintes dos à dos. Choisissez votre enceinte.
Vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Score.
Léo.
Annabelle. 11.
Moins 11.
27.
12.
22.
28,
47,
34,
52,
50,
81,
74, L,
A,
25,
21,
49,
46,
64,
72,
82,
100,
L,
A,
22,
14,
54,
42,
73,
59,
87,
81, A,
Elle.
25.
28.
49.
42.
48.
61.
68.
76.
6.
20.
37.
24.
50.
39.
55.
60.
78.
86.
A.
Elle.
8.
7.
20.
11.
27.
12.
37.
40.
56.
55.
53.
70.
73.
84.
Moins 6.
12.
15.
19.
34.
31.
52.
44.
72.
56.
104.
79.
Annabelle.
Léo.
27.
5.
41.
5.
33.
25.
44.
42.
63.
52.
79.
61. Léo.
Annabelle.
20.
5.
32.
19.
23.
32.
22.
53.
39.
69.
70.
93.
Moins 1.
9.
18.
28.
32.
41.
43.
62.
46.
81.
Elle.
A.
18.
24.
24.
44.
35.
55.
65.
60.
85.
53. A.
L.
21.
Moins 2.
41.
Moins 8.
33.
5.
36.
20.
51.
19.
73.
31.
95.
51.
Annabelle.
Léo.
19.
2.
15.
24.
34.
28.
32.
35.
53.
50.
70.
69.
94.
91.
A.
L.
7.
24.
33.
42.
52.
50.
74.
64.
88.
82. Proposition 2. 30 ans. Pièce sonore pour deux enceintes en quinconce. Pour une écoute optimale, il est demandé à l'auditeur de disposer son enceinte droite en face de lui, à une distance idéale pour son confort d'écoute. Il devra ensuite installer son enceinte de gauche derrière la première, légèrement décalée et légèrement orientée vers la gauche, cette seconde enceinte étant réservée aux remarques en marge de l'institutrice. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation. L'enceinte de gauche légèrement derrière l'enceinte de droite et orientée vers la gauche.
Votre enceinte de droite. Votre enceinte de gauche. Droite. Gauche. Prêt ? Trente ans. Vendredi 29 mars 96.
Vendredi 29 mars 96.
Français.
Français, conjugaison.
Conjugaison. Imagine-toi à 30 ans. Écris au moins 5 phrases au futur.
Imagine-toi à 30 ans, écris au moins 5 phrases au futur. Alors.
Je serai mariée.
Mariée. E accent aigu, E.
J'aurai 2 enfants. Je serai chimiste. J'en ferai chez moi de la chimie. J'aurai 2.
2.
Jumelles de 5 ans.
D-E-U-X. Jumelles. S.
Elles feront de la harpe. Nous vivrons dans une belle maison.
Un seul S.
Très ancienne.
Ancienne. A-N-C.
Avec que des meubles anciens.
A-N-C.
Et une vieille cour avec beaucoup de plantes. qui descendent.
Descendent ?
Le long du mur de la cour.
D sans apostrophe, S-C-E-D-E-N-T.
Nous aurons deux chats.
S.
Un chien. Et des petits lapins.
S.
Un petit jardin au fond.
Fond. O-N-D.
De la cour. Avec beaucoup de plantations de carottes.
S.
Des choux. Des pommes de terre. Des légumes, quoi.
Non.
Mes deux jumelles ne seront pas habillées.
Habillées.
Pareil.
E-E-S. Pareil. Un L.
Elles vivraient.
Elles vivront.
Chacune dans leur.
Sans eux.
Chambre.
S.
Nous ne serons pas riches, mais juste comme il le faut. Mes jumelles seront là.
Accent grave.
Toujours pour faire des blagues.
S.
Et mon mari.
Sans eux.
Romain. On vivra heureux avec moi et les deux...
D-E-U-X.
Jumelles.
S.
Les jumelles s'appelleront une Zelda et l'autre Orpheline.
Très bien pour le futur.
Proposition 3. Un documentaire à votre façon. Pièce sonore pour deux enceintes distantes.
Pour une écoute optimale, il vous est demandé d'éloigner vos enceintes autant que cela vous est possible, idéalement de les disposer dans deux pièces différentes. Puis, vous choisirez une enceinte devant laquelle vous vous installerez. Par la suite, il vous sera proposé de rester à la même place ou de vous diriger vers l'autre enceinte. Si vous êtes dans la possibilité d'éteindre et d'allumer aisément vos deux enceintes, vous pouvez aussi allumer une de vos deux enceintes, éteindre la seconde, et lorsque vous souhaiterez changer d'enceinte, vous pourrez faire la manipulation inverse. Je répète, éloignez vos enceintes autant que cela vous est possible. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation.
Votre enceinte droite, votre enceinte gauche. Celle-ci, celle-là. Ici, là. Alors, vous êtes prêts ?
Un documentaire à votre façon. Vous êtes l'auditeur de ce documentaire, vous venez d'allumer votre radio, disons, ou d'entendre la fin d'une émission, peut-être, ou la fin d'une musique en vogue, plutôt. Vous savez, vous en avez l'habitude, qu'à cette heure commence votre émission documentaire préférée, celle composée d'archives brutes mises bout à bout. Cette émission commence toujours de la même façon, l'annonce du nom de celui ou de celle qui en sera le sujet. Puis, si vous souhaitez que le documentaire se poursuive par une courte citation donnant un aperçu de la personnalité du sujet, dirigez-vous vers l'enceinte de gauche. Si, au contraire, vous préférez que cette émission se prolonge par l'annonce des intentions du documentariste, dirigez-vous vers l'enceinte de droite. Votre documentaire commence enfin. Vous tendez les oreilles.
Elle.
Certaines gens prétendent que malgré tout, il faut que je goûte à cette sorte de fièvre qu'on appelle l'amour.
Nous allons parler d'elle. Tenter de parler d'elle.
Ceci n'entre absolument pas dans mes plans.
Elle, c'est une énigme. Le genre de mystère qu'aucun détective, fût-il snob et moustachu, ne saura résoudre.
Si jadis,
nous n'essayerons
j'ai pu
pas.
En avoir d'autres, ils
simplement,
se sont envolés en fumée.
Nous allons tenter d'en tracer les contours.
Je les ai enterrés, enfermés, cachetés et oubliés.
D'en approcher les différentes facettes.
Car tu n'ignores pas que les murs sont toujours plus forts que les têtes qui essaient de les démolir.
Un portrait en creux, au creux d'elle.
Cette introduction vous a intrigué, le titre surtout. Pas de nom, simplement elle. Cette fois, elles y vont fort. Déjà que cette émission peut paraître étrange à ceux qui ne la connaissent pas bien. Heureusement, ce n'est pas votre cas. Et vous savez bien qu'après l'introduction, vient une description psychologique du sujet. Une voix vous annonce qu'il s'agit cette fois d'un texte écrit par sa fille, la fille de elle. Si vous souhaitez que ce texte soit positif, rendez-vous devant votre enceinte droite. Si vous préférez percevoir une certaine rancune, rendez-vous devant votre enceinte gauche.
Ma mère.
Ma mère ne m'a jamais donné la main.
Ma mère est très étrange.
Elle m'aidait à monter, à descendre les trottoirs en pinçant mon vêtement à l'endroit où l'emmanchure est facilement saisissable.
Ma mère ne ressemble pas à une mère.
Cela m'humiliait.
Les mères admirent toujours leur enfant.
Je me croyais dans la carcasse d'un vieux cheval qu'un charretier tirerait par l'oreille.
Et ceux des autres, alors que ma mère n'aime pas du tout les enfants.
Un après-midi, alors qu'une calèche fuyait, éclaboussant de ses reflets le sinistre été, au milieu de la chaussée, je repoussais la main.
Elle a les cheveux châtain clair.
Elle me pinça davantage et me souleva de terre comme un poulet qu'on enlève par une seule aile.
Elle a les yeux verts.
Je devins molle.
Le nez busqué.
Je n'avançais plus.
Et les lèvres roses.
Ma mère vit mes larmes.
Elle est mince.
Tu veux te faire écraser et tu pleures.
Et j'aime ses bras.
C'était elle qui m'écrasait.
Son jour préféré.
Elle commençait par m'habiller la première.
C'est l'Annonciation.
Quand j'étais prête.
Elle est triste.
Je tournais comme un manège
vive,
devant elle. Elle me toisait, je m'arrêtais.
Elle aime les vers et la musique.
Tel un peintre qui s'éloigne et se rapproche de son chevalet.
Elle écrit des vers.
Elle arrivait, estompait le brillant des coques d'un ruban en le renouant à l'envers.
Elle est patiente.
Avançait mes boucles sur mes joues et m'asseyait sur une chaise de paille.
Elle endure toujours.
Elle avait relevé ma robe et mon jupon.
Jusqu'à la dernière extrémité.
Quand je bougeais pour moins sentir les fibres s'incruster dans mes chairs, elle me fixait.
Elle est emportée.
C'était bleu.
Et
dure.
Aimante.
Elle avait l'habitude de poser son chapeau sur sa tête quand elle était encore en pantalon, chaussée de bottines lacées jusqu'au-dessous du genou.
Elle est toujours pressée.
Elle avançait, reculait.
Elle a une grande âme.
En se préoccupant seulement devant la glace de son visage et de cette immense galette qui basculait sur son chignon perdu.
Une voix douce. Une démarche alerte.
Le dressage de la voilette était fantastique.
Elle a les doigts pleins de bagues.
Elle la choisissait parmi des flots de tulle dans une
ma
boîte.
Ma mère passe ses nuits à
elle
lire.
Elle devait adoucir ou souligner ses traits.
Elle a presque toujours les yeux moqueurs.
Qu'est-ce que tu penses de celle-ci?
Elle n'aime pas qu'on la nuit avec des
je
questions
bêtes. Je répondais que je trouvais joli ce fin treillis gris et ces petites abeilles plus irréelles que la voilette elle-même dont on l'avait décorée.
Elle se fâche alors terriblement.
Je te demande ce que tu en penses par rapport à moi.
Parfois, elle va et vient.
Par rapport à elle,
et perdue,
je ne pensais rien.
Puis, soudain, elle semble s'éveiller, elle commence à parler, puis c'est à nouveau comme si elle s'en allait, on sait où.
Et sans transition, une nouvelle séquence, courte, se fait entendre. Vous le savez, vous y êtes habitués. C'est une anecdote, un morceau de sa vie, à elle, qui va vous en apprendre un peu plus sur sa personnalité. Si vous désirez que cette anecdote illustre son caractère bien trempé et qu'elle vous soit narrée par un poète sonore, installez-vous devant votre enceinte de gauche. Si, au contraire, vous préférez entendre la lecture d'une de ses lettres à elle, évoquant une période difficile de sa vie, installez-vous devant votre enceinte droite.
Mont de Vergue. 18 février 1927.
Elle est furieuse. Elle enlève ses lunettes noires.
Chère maman.
Elle transperce
son
âme du regard.
Aujourd'hui ton superbe
elle
colis.
Le traite de salaud.
Il est arrivé en bon
elle
état.
Elle bafouille.
Tous les articles
le
sont excellents. Je suis
elle
toujours très
des
bien
costauds.
Servie malgré que je
elle
sois
n'a qu'un mot à dire.
La maison
elle lui fait promettre de garder le silence.
Très consciencieuse de leur faire
elle ne
des
veut plus de champagne.
Le vin est délicieux.
Elle s'esquive dans les toilettes. Elle en ressort tout apprêtée.
Le beurre
elle
aussi.
Elle est un taxi
quelle
dans la rue.
Avec
elle prend la direction des quais.
Elle
a volé des biscuits dans le restaurant. Elle veut les donner à manger aux moines.
Que de ce qu'il contient.
Elle descend de voiture.
Pour la nourriture d'ici,
elle laisse aux moines régler la course.
Je ne puis du tout la supporter. Ce n'est plus la peine de payer 30 francs par jour de première.
Elle caresse le chien.
Surtout,
elle se
dépêche-toi d'écrire à Paul de me remettre comme j'étais avant.
Elle ne devrait pas toucher les
animaux. Car je pouvais encore manger, tandis
elle répond
que de première classe,
elle n'est jamais
mordue
par les chiens.
Je
elle est seulement
mordue
par les hommes.
Ces graillons qui me rendent
elle accepte de signer un autographe.
Je me
elle saisit un stylo et une
pomme de terre en robe de chambre.
Elle écrit Dieu vous bénisse.
Le soir, c'est de cela
elle
que je vais vivre. Cela
elle atteint le bord de la
chute. Elle s'assied
pour cela, sur une borne d'amarrage.
C'est le cas de dire qu'il
elle
faut que vous soyez
fou. À la mer.
Quant à moi,
elle écoute le clapotis.
Je suis tellement désolée de
elle
continuer
contemple
à vivre ici.
Elle a faim.
Que je ne suis plus une créature.
Elle n'a pas déjeuné.
Je ne peux plus supporter les cris de toutes ces créatures.
Elle lui fera régler l'addition.
Cela me tourne sur le cœur. Dieu, que je voudrais être à Villeneuve.
Ce qui vous plaît dans cette émission, c'est qu'elle devance vos envies, qu'elle fait toujours les bons choix de montage et de rythme. Par exemple, vous êtes sûr que la séquence qui va suivre conviendra parfaitement à votre état d'esprit. Si votre état d'esprit appelle un peu de repos, vous pouvez entendre une simple ambiance, celle d'un des lieux où elle a vécu, depuis votre enceinte gauche. Mais si, durant le précédent extrait, vous vous êtes machinalement demandé à quoi pouvait bien ressembler sa signature, vous pouvez entendre un spécialiste à ce propos, depuis votre enceinte droite.
Cette écriture, qui est une écriture que l'on appelle, nous, dans notre jargon, animus, est une écriture donc masculine. Il y a donc peu de douceur, peu de rondeur, de côté fécond de la femme. On sent que cette personnalité voulait vivre plutôt comme un homme, besoin d'agir sur les événements, les gens, un côté très dur, autoritaire, n'admettant pas la contradiction. Il y a aussi un potentiel instinctif qui est très très important. Et on sent, c'est, comment dire, elle serait un peu dans le fantasme plutôt. On peut penser qu'elle avait une sexualité d'homme, donc pas une sexualité passive, mais une sexualité donc, où la virilité active, où elle agit, où elle prend, sans vraiment se donner. Et de ce fait, il n'y a pas de véritable épanouissement. Et elle va rechercher toujours sans doute des renouvellements dans la sexualité pour obtenir cet épanouissement, mais c'est sans doute parce qu'elle manque en fait de douceur, elle est impatiente, elle ne prend pas le temps.
Tout ce que vous avez entendu vous a donné à réfléchir. Pourtant, son portrait, à elle, vous semble toujours assez flou. Vous réalisez que l'on ne vous l'a toujours pas décrite, physiquement, et que votre trouble naît de cette incapacité à vous la représenter. Cependant, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous n'allez pas tarder à découvrir à quoi elle ressemble. Vous savez, par habitude, peut-être par divination, que ce sera le sujet de la prochaine séquence. Si vous souhaitez connaître les traits qu'elle avait, jeune femme, approchez-vous de votre enceinte droite. Si, au contraire, vous aimeriez connaître la vieille dame qu'elle fut, approchez-vous de votre enceinte gauche.
C'était une petite ombre très frêle.
Donc elle était déjà
très
plus
pâle,
plus très jeune. Elle n'était pas
qui était,
cette merveilleuse.
Pas de grande taille, enfin, elle était moyenne.
Assez mystérieuse.
Mais qui défiait absolument, tellement silencieuse.
Dans les bras,
et que l'on
était une femme
n'entendait
plus
pas
âgée.
Il est très difficile de dire la couleur de ses yeux. Parce que nous ne sommes pas du tout d'accord sur la couleur de ses yeux. Et je crois que ceci venait en grande partie de ce qu'elle avait, d'épaisses lunettes,
les uns du visage,
et
puis un air fermé, même quand elle parlait. Mais c'est vrai qu'elle avait une très belle voix.
Lorsqu'elle était importante, elle avait un visage d'une pâleur mortelle.
Et très égale.
Une figure absolument inexpressive, des yeux mornes. Mais que si
soir,
quelque chose
bière et whisky,
survenait,
et
alors à ce moment-là, son visage s'illuminait complètement,
un air assez sombre
et
au départ.
Cette figure devenait toute.
Il fallait essayer de la pacifier.
vibrante, et elle se mettait à l'unisson de notre joie.
Donc, ainsi à moi, qui avait l'air vraiment pas sympathique.
Des yeux pétillants de malice, d'intelligence et de joie.
Elle était quand même seule dans cette maison. C'était vraiment évident au bout du monde.
Entre les deux femmes.
Vous regardez votre montre. Malheureusement, cette émission va bientôt s'achever. Vous voilà un peu triste, par anticipation, mais aussi plein d'impatience, car vous savez que l'émission va s'achever par une anecdote savoureuse qui justifiera à elle seule le fait qu'elle fut le sujet de ce documentaire. Une sorte de nœud final, terminant un ouvrage qui ne fut qu'un fil décousu, mais ravissant. Si, ayant toujours apprécié la compagnie des chats, vous souhaitez entendre une anecdote féline, dirigez-vous sans tarder devant votre enceinte gauche. Si, au contraire, vous préférez le gibier aux animaux de compagnie, il sera question de lapins de garenne devant votre enceinte droite.
La première fois où je suis allée chez elle, elle préparait un lapin à la crème pour ses chats. Ce qu'elle n'aurait pas fait pour moi.
Elle disait souvent que s'il y avait eu dans un incendie un bébé et un chat, elle serait partie avec le chat. Elle emmenait ses escargots dans son corsage. Mais je vous dis, c'est un personnage dont on mesure assez mal encore, je crois, l'excentricité. On en a fait un personnage à la fois mystérieux, un peu impénétrable comme ça, quelqu'un de... Mais on n'a peut-être pas entrevu, parce que comme elle ne parlait pas elle-même de tout ça, on n'a pas entrevu toute la folie du personnage.
Et l'émission s'achève. Enfin, il y a bien encore une voix qui donne ses sources et quelques remerciements, mais vous ne l'écoutez pas. Aujourd'hui, l'émission vous a paru étrange, elle surtout, le sujet. Il vous semble qu'elle fut une figure flottante, un fantôme, parce que vous ne connaissez pas son nom, d'une part, Marie, Patricia, mais aussi parce qu'il vous a semblé qu'elle aurait pu être tout autre. Camille, Marilyn, laissez d'autres souvenirs, d'autres enfants, d'autres anecdotes. Anaïs, Violette, sans savoir quoi penser, vous éteignez machinalement le poste. Marina, Jane.
Proposition 4. De quelques éléments qui méritent d'être portés à la connaissance de l'auditeur. Pièce sonore pour deux enceintes à cheval.
Pour une écoute optimale, il est demandé à l'auditeur de disposer ses enceintes l'une, et plus précisément celle-ci, au-dessus de l'autre, l'autre étant par conséquent celle-là. On pourra au besoin intercaler des dictionnaires entre les deux enceintes afin de s'éloigner de l'enceinte du bas, si par habitude ou par principe, on ne porte jamais attention aux notes en bas de page. En effet, de la dite enceinte, l'enceinte du bas, seront diffusées des notes en bas de son. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation. Celle-ci, celle-là.
Celle-ci, celle-là.
Plus précisément, celle-ci.
Là.
L'une au-dessus de l'autre.
L'une, l'autre. Ici.
De quelques éléments qui méritent d'être portés à la connaissance de l'auditeur. Quiconque joue se doit d'être sérieux.
J.K. Chesterton, Le théâtre de marionnettes.
Pourrait être la devise des quelques installations sonores à domicile proposées ici.
In Le paradoxe ambulant.
Ce serait, en tout cas, la réponse que nous apporterions à ceux qui nous demanderaient si notre proposition est sérieuse.
Page 154.
Oui, puisqu'il s'agit d'un jeu. Mais attention, ajouterions-nous en ouvrant les guillemets.
Jouer comme l'entendent les enfants est la chose la plus sérieuse au monde. Dès lors que nous avons de petites tâches ou de menus chagrins, il nous faut, dans une certaine mesure, abandonner un projet de vie si vaste et si ambitieux. Nous avons assez de force pour la politique, le commerce, l'art et la philosophie. Nous n'en avons pas suffisamment pour le jeu.
Ibidem, page 152.
C'est pourquoi, avouons-le tout de suite, nous n'en voudrons pas aux quelques auditeurs qui n'ont pas jusque-là et refuseront ensuite de jouer le jeu. Il y a d'ailleurs au moins deux manières de jouer le jeu. Disposer matériellement ces enceintes dans les différentes configurations proposées, mais aussi, puisque nous sommes dans un jeu au sérieux enfantin, les y disposer en imagination.
Du type « on dirait que ». On dirait qu'on aura mis les enceintes l'une au-dessus de l'autre et qu'on écouterait bien comme il faut.
Ne nous méprenons pas. Il y a aussi derrière ce dispositif de véritables tentatives pour ouvrir le champ des possibles de la diffusion sonore domestique. Ce principe de notes en bas de son, par exemple, répond à une véritable difficulté qui se pose lors de la lecture d'un ouvrage annoté. L'association des donneurs de voix, qui est confrontée parfois à ce problème, propose la solution suivante. Annoncer note. Si elle est courte, la lire dès qu'elle se présente. Sinon, l'annoncer en fin de la phrase qui la contient. Lire la note et conclure par « fin de note » avant de revenir à la suite de la lecture.
Association des donneurs de voix. Information aux donneurs de voix. Mai 2017, document interne.
Ce qui est une solution, reconnaissons-le, peu commode et peu adaptée au statut des notes, qui sont précisément reléguées au bas des pages pour ne pas importuner ceux qui n'ont pas envie de précision. Alors que notre proposition de sacrifier la diffusion stéréophonique, inutile dans le cas d'une voix nue, pour donner au texte et aux notes deux sources différentes, semble bien plus adaptée. Abstraction faite, évidemment, de son incongruité. De même, l'idée de pouvoir diffuser des installations sonores à domicile via la radio serait un gain pour la démocratisation de l'art sonore, la rémunération des artistes et la santé des surveillants de musées.
L'auteur parle ici d'expérience, puisqu'il dut surveiller l'exposition Dreamland au Centre Pompidou en 2010. Exposition durant laquelle la direction autorisa ses agents à porter des bouchons d'oreilles, ce qui ne facilitait pas la communication avec les visiteurs.
Enfin, pour ceux qui, trop adultes, trouveraient encore tout cela saugrenu, nous préciserons que nous ne sommes pas les premiers à tenter ce genre d'expérience. En 1951, la radio-télévision française tentait la seconde diffusion stéréophonique.
Quid de la première ? Nous n'en savons rien.
De la pièce « Une larme du diable ».
De Théophile Gautier, adapté par René Clair, 1951.
Il était demandé à l'auditeur d'avoir deux récepteurs. Et la diffusion commence par un ensemble d'instructions pour qu'il puisse installer son dispositif d'écoute. D'autres furent saugrenus avant nous. Et nous les en remercions.
Proposition 5. Pour l'anecdote. Pièce sonore pour deux enceintes autour d'une table.
Pour une écoute optimale, il vous est demandé de disposer vos enceintes autour d'une table, sans oublier de vous réserver vous-même une place à cette table. Il vous est aussi possible de disposer vos enceintes dans un canapé ou des fauteuils de votre salon et quelques cacahuètes sur la table basse. Vous pouvez aussi vous servir à un verre de bière ou une tasse de thé. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation.
Là, c'est la droite. Là, c'est la gauche. Droite. Gauche.
Vous avez choisi votre place ?
Pour l'anecdote. Un jour, j'ai placé Physalis sur deux beaux comptes triples.
J'avais 12 ans et une petite amie. On se tenait la main. Un oiseau fianta sur ma poignée. Ce fut le motif de notre rupture.
J'avais toujours besoin de savoir l'heure exacte. J'appelais l'horloge parlante pour avoir l'heure de l'horloge astronomique, parfaitement exacte. Ma mère ne s'en rendit compte que lorsqu'elle demanda une facture téléphonique détaillée. Après quoi, je n'eus plus le droit d'appeler. Je perdis la jouissance de l'exactitude.
On venait de lire un livre sur les espèces animales. Je lui ai demandé s'il avait bien compris. Il m'a dit « Moi, je suis un être humain. Toi, tu es un adulte. »
Avant, pour animer un noyer, on lui tirait la langue à un rythme régulier.
À l'école, je venais d'apprendre l'utilisation de la virgule et ça m'a paru fantastique. Le soir, sur la machine à écrire de mes parents, j'ai écrit un texte, l'histoire d'un homme qui allait au marché et qui achetait plein de fruits et légumes que j'énumérais. À chaque fois que je mettais une virgule pour ajouter un élément, j'étais fasciné par son pouvoir. J'ai montré mon texte à ma mère, très fière. Elle m'a demandé comment l'homme pouvait porter autant de choses.
J'ai lu l'histoire d'une ville qui avait été sauvée d'un envahisseur grâce à un clocher en retard et que, depuis, les habitants avaient décidé de ne jamais remettre ce clocher à l'heure.
Quand j'étais petite, j'avais décidé de régler le problème de la mort. En prenant le temps qu'il fallait, mais en utilisant mon énergie qu'à ça, jusqu'à la réussite complète du projet.
Je l'ai lu, mais je crois que c'est faux.
La première étape consistait à comprendre ce que c'était. Alors chaque soir, avant de dormir, j'essayais de l'imaginer. Pas d'une manière générale, j'essayais de l'imaginer en moi, de m'imaginer morte. C'est-à-dire que j'essayais de ne plus penser. Et de temps en temps, et je le crois encore, j'y arrivais. Je n'étais plus rien quelques centièmes de seconde. Et ça me terrorisait.
Aux toilettes, j'ai toujours peur de salir le bout de ma ceinture, alors je le mets dans ma poche.
J'ai raté un train qui avait 20 minutes de retard.
Mon père passait à la radio. C'était en différé. Il était allé enregistrer la veille. On était tous devant le poste à l'écouter et lui commentait ce qui se passait. Il nous racontait à quoi ressemblait le studio, quelle tête faisait le journaliste et à quel moment. Du coup, on suivait plus vraiment l'émission. Alors ma mère lui a dit « Tais-toi donc, on t'entend pas. »
J'allais à la maternelle, j'étais pas allé à la crèche.
C'était une armée, je sais plus quand ni qui, mais elle était beaucoup moins nombreuse que l'armée adverse.
On est tous allés aux toilettes, on était tous alignés devant une série d'urinoirs et on nous a dit de faire pipi.
Alors, elle a campé au milieu de la plaine, là où elle était le plus vulnérable, pour faire croire à un guet-apens. Elle ne fut pas attaquée.
Ma mère, elle m'avait pas appris à sortir directement mon zizi, seulement à baisser mon pantalon et mon slip jusqu'aux chevilles. Donc j'ai fait comme je savais faire. On était tous alignés et moi, seul au milieu, peut-être un peu à droite du rang, j'avais le slip aux chevilles et les fesses à l'air.
Maman était revenue de chez le coiffeur avec les cheveux tout courts.
J'ai mis du temps à m'en remettre.
Avant, elle les avait jusqu'au bas du dos. J'ai laissé passer quelques jours, circonspecte. Puis je suis allée voir mon père pour lui annoncer que je ne m'en voulais pas d'avoir changé de maman. Que celle-là aussi, elle était très bien.
Il était si fier d'avoir eu son nom dans le journal qu'il l'avait découpé et collé sur sa sonnette.
Il y avait deux Nicolas dans ma classe. C'était un de trop. Je voulais être le seul. L'autre, j'ai commencé à l'appeler Joseph, avec insistance, tout le temps. Et tout le monde s'est mis à faire pareil. J'avais gagné. Il n'y avait plus qu'un Nicolas.
Il ne pouvait plus aller aux toilettes. Alors il ne mangeait plus.
Mais pour se venger, Joseph s'est mis à m'appeler Zachary.
On savait que c'était la fin. On s'est tous réunis dans sa chambre d'hôpital et il nous a regardés. Pour la dernière fois. Et il est parti en se lâchant, en s'épanchant comme il n'avait plus réussi à le faire depuis tant de temps.
L'infirmière s'appelait Madame Picmal.
Le boucher s'appelait Bonnechère.
Le plaignant s'appelait Honnête.
Je ne sais plus pourquoi on avait choisi une rate, ni comment on l'avait nommée à l'origine. On avait fini par l'appeler Madame Bovary parce qu'elle s'ennuyait toute la journée. Elle est tombée malade, mais on n'avait pas les moyens de la faire piquer, on était étudiants.
Mon père m'avait demandé d'amener le chien chez le vétérinaire pour le faire piquer.
Alors je lui ai mis le museau dans un coton d'éther.
Il m'avait donné de quoi payer le vétérinaire et ça faisait une belle somme.
Je lui ai brisé les cervicales et j'ai pleuré.
Je me suis dit que ça devait pas être bien difficile de tuer un chien et que c'était plutôt bien payé. Je suis pas allée voir le vétérinaire. J'ai gardé l'argent et j'ai tué le chien avec une pierre sur le bord de la route.
On avait roulé quelques kilomètres, mais les lunettes étaient restées sur le toit de la voiture.
Il était en vacances au fin fond de nulle part, dans un bus. Un voyageur a eu un malaise, un truc grave. Il lui a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Pendant plus d'une heure, le voyageur s'en est sorti, mais lui est mort juste après, d'épuisement.
Elle m'a demandé, tu sais ce que c'est une putain ? Je savais pas, alors je lui ai dit non. Elle m'a répondu, c'est une femme qui fait l'amour sans culotte.
Il avait le corps percé par un tir d'obus, mais il ne nous en avait jamais parlé. Je ne suis même pas sûre de m'être demandé comment il avait pu devenir ainsi. J'ai dû l'apprendre plus tard.
Je lui ai demandé si je pouvais l'enterrer dans le jardin.
On l'avait surnommé Papy Gruyère.
Il était d'accord à condition de le mettre dans une boîte à au moins 1 mètre de profondeur. Alors j'ai creusé. 1 mètre, c'est profond.
Vous connaissez Henri Emmerich ?
C'est une gamine de 7 ans qui attrapa le bouquet de la mariée.
Il inventa une méthode pour sauver les personnes qui s'étouffent. Il a pu lui-même utiliser sa méthode pour sauver une pensionnaire de sa maison de retraite, à 96 ans.
Ils ont dérobé des poussettes.
Ils ont dérobé des croquettes pour chiens.
Ils ont dérobé du comté.
On ne le connaissait pas vraiment. Seulement, à chaque fois qu'on le croisait dans la cage d'escalier, il nous faisait un petit signe de la main. Doux, gentil. Un jour, les pompiers sont venus et l'ont emporté sur une civière. Et le voisin, en nous voyant au pas de la porte, nous a fait ce même signe de la main. Aussi doux. Et aussi gentil. C'est plus tard qu'on vint pour vider son appartement.
J'ai passé beaucoup de temps à mettre au point une technique pour ne pas avoir de grumeaux en préparant mon chocolat. Puis j'ai réalisé que ce que je préférais dans le chocolat chaud, c'était les grumeaux.
Il y avait un prix réduit pour les cartes postales de 5 mots ou moins.
Elle était si apprêtée et craignait tellement les autres qu'elle faisait la bise du bout du nez.
Je ne comprenais ni quand est-ce qu'il fallait le dire, ni ce que ça voulait dire. Pour essayer, j'ai dit à ma mère, va te faire cuire un œuf. J'ai pris une rouste. J'étais pas plus avancé.
J'attendais je ne sais plus quel vol en caressant le chien du douanier qui était posté près de moi. Quand je me suis levée, le chien m'a suivi. J'ai eu le droit à une fouille complète.
On s'essuyait avec du papier journal.
C'était une pièce composée uniquement d'anecdotes. Des tristes, des banales, des drôles. Enfin, j'imagine.
Comme une conversation dont on aurait enlevé tout le superflu. Dont on aurait gardé les seuls passages que les gens ont vraiment envie de communiquer.
Il y a un personnage célèbre, une dame je crois, dont on dit qu'elle est morte durant la nuit du 4 au 15 octobre.
Pour Noël.
Car il y a eu un changement de calendrier cette année-là.
Un explorateur a fait jouer un phonographe pour des pingouins en Antarctique.
Ces petites histoires qui nous font dire qu'on a quelque chose à dire.
Je ne sais pas quoi en penser.
Enfin ça, c'est ce qu'en disait l'auteur.
Quand j'étais petite, j'aimais pisser sur le tapis. Le tapis pourrissait et je disais que c'était le chien.
Proposition 6. Une remarquable invention du professeur Butz. D'après Rube Goldberg, adaptation sonore pour 2 enceintes, dont l'une tenue à bout de bras.
Pour une écoute optimale, il vous est demandé de disposer votre enceinte droite dans un coin de votre pièce et de tenir votre enceinte gauche à bout de bras. Vous devez régler le niveau d'écoute de votre enceinte gauche pour pouvoir l'écouter sans gêne. Il vous sera par ailleurs demandé de suivre un parcours précis qui s'étendra de gauche à droite. Vous devez donc pouvoir vous déplacer vers votre droite sur une distance d'au moins 3 pas. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation. Je répète. Votre enceinte droite dans un coin, votre enceinte gauche à bout de bras.
Votre enceinte droite, votre enceinte gauche. Là, c'est la droite. Là, c'est la gauche. À tribord, à bâbord.
Bien. Tout d'abord, nous allons réviser les divers mouvements que vous allez devoir effectuer. Installez-vous le plus à gauche possible. Faites un pas en arrière et fléchissez vos jambes. Tournez-vous légèrement vers votre gauche. Vous êtes ainsi en position de départ. À présent, je vais vous annoncer les différentes instructions que je vous donnerai et vous décrire les mouvements qui correspondent à ces instructions. Tournez-vous légèrement. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous tournerez légèrement vers votre droite. Vous devez effectuer un angle d'environ 45 degrés. Vous pouvez essayer. Tournez-vous légèrement. Vers la gauche. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous tournerez rapidement vers votre gauche. Vous pouvez essayer. Vers la gauche. Vers la droite. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous tournerez brusquement vers votre droite pour retrouver votre position initiale. Vous pouvez essayer. Vers la droite. Levez-vous. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous lèverez d'un bond. Vous pouvez essayer. Levez-vous. Inclinez-vous. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous pencherez légèrement vers le sol, en prenant votre temps. Vous pouvez essayer. Inclinez-vous. Un pas vers la droite. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous décalerez lentement, d'un pas, vers votre droite. Vous pouvez essayer. Un pas vers la droite. Redressez-vous. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous redresserez jusqu'à vous tenir droit, les bras à l'horizontale. Vous pouvez essayer. Redressez-vous. Inclinez-vous à droite. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous pencherez légèrement vers un point imaginaire au niveau de votre bassin, sur votre droite. Vous pouvez essayer. Inclinez-vous à droite. Vers la droite, lentement. Lorsque je vous dirai ceci, vous vous décalerez lentement vers la droite, jusqu'à la fin de la pièce. Vous pouvez essayer. Vers la droite, lentement. À présent, nous allons reprendre ces mouvements en les enchaînant plus rapidement. Vous allez donc vous installer à votre position de départ, qui, je le rappelle, se situe le plus à gauche possible, légèrement en arrière, jambes fléchies et le buste incliné vers votre gauche. Bien. Si vous êtes installé, nous allons enchaîner les mouvements appris précédemment. Je préciserai encore une fois leur nature, mais plus brièvement. Attention, nous commençons. Tournez-vous légèrement, 45 degrés droite. Avancez. Un pas. Vers la gauche, rapidement. Vers la droite, brusquement. Levez-vous, d'un bond. Inclinez-vous vers le sol. Un pas vers la droite, lentement. Redressez-vous, bien droit. Inclinez-vous à droite, au bassin. Vers la droite, lentement, jusqu'à la fin. Maintenant que vous avez bien retenu les divers mouvements que vous allez devoir effectuer, notre adaptation va pouvoir commencer. Prenez le temps de vous installer dans votre position de départ. Le plus à gauche possible, hein, légèrement en arrière, jambes fléchies et le buste incliné vers votre gauche. Et nous allons vous faire entendre une incroyable machine imaginée par Rube Goldberg.
Une remarquable invention du professeur Butz. Le professeur Butz boit une gorgée d'un gin étrange et met au point une remarquable invention qui permet d'ouvrir la porte du garage sans sortir de sa voiture. Amener le pare-choc contre le maillet,
qui, en retombant, fera exploser l'amorce.
Tournez-vous légèrement. 45 degrés droite.
Le lapin, effrayé, fuit dans son terrier.
Avancez. Un pas.
Tirant sur la ficelle.
Vers la gauche.
Qui actionne le pistolet sur le saut.
Vers la droite, brusquement. Levez-vous. D'un bond.
L'eau coule par le trou dans l'aquarium.
Inclinez-vous vers le sol.
Le niveau monte.
Un pas vers la droite. Lentement.
Et le bouchon vient toucher la balançoire.
Redressez-vous bien droit.
Qui bascule ?
Inclinez-vous à droite, au bassin.
La puce, perdant l'équilibre, tombe sur la queue du toutou, le réveillant. Le frétillement de sa queue fera tourner la plateforme, ouvrant le robinet.
Vers la droite, lentement, jusqu'à la fin.
L'eau coule dans le tuyau. Et met en route le jet rotatif, auquel s'enroule la corde, qui ouvrira la porte du garage.
Proposition finale, des annonces. Pièce sonore pour écoute standardisée.
L'émission touche à sa fin et c'est pourquoi nous invitons l'auditeur à ranger son dispositif d'écoute, c'est-à-dire à disposer ses enceintes aux endroits où celles-ci se trouvent habituellement.
C'était Radio Acousmomium. Une pièce radiophonique inspirée par les premières diffusions stéréophoniques. 30 ans était une lecture d'une rédaction d'Annabelle Michon, écrite et corrigée en 1996. Un documentaire à votre façon proposait un portrait composé de différentes archives. Une lettre de Marie Curie, lue par Émilie Trassante en 2011. Une description de Marina Tsetaeva par sa fille, lue par Anna Miasedova en 91. Un extrait de L'asphyxie de Violette Leduc, lu par Evelyne Guimara en 2000. Une lettre de Camille Claudel, lue par Christelle Viomser en 2011. Un extrait de Elle regarde passer les gens, de Anne-Jem Chaton, lu par l'auteur en 2016. Une analyse graphologique de la personnalité d'Anaïs Nin par Claude Herman en 1991. Une description de Marie Curie par Marguerite Perret en 1967. Et des descriptions de Patricia Highsmith par Noël Loriot, François Rivière et Josiane Savigno en 2003. Pour l'anecdote, se termine par une citation de Sarah Kane, extraite de la pièce Manque. La remarquable invention imaginée par Rube Goldberg a été adaptée avec l'aimable autorisation de King Features Syndicate, traduction Frank Reichert, édition Gallimard, collection Futuropolis. Avec les voix de Cécile Arnaud, Geoffroy Barbier, Léo Duquesne et Annabelle Michon. Bruitage, Bertrand Amiel. Archivina, Nathalie Durand et Hervé Evano. Prise de son et mixage, Philippe Bredin. Une proposition de Léo Duquesne, réalisée par Christine Robert.
Ces exercices radiophoniques sont disponibles en ligne et podcast sur notre site. Demain, nous jouerons encore avec nos postes de radio pour une expérience radiophonique inédite ayant Paris pour cadre. Code de la déconduite par Antonia Taddei et Ludovic Nobilo.